Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de la Chose Commune, votre magazine de Studio ZEF consacré au développement durable, à la transition écologique, aux initiatives solidaires. Et ce matin, nous avons un projet qui coche ces cases-là et même un peu plus. Nous sommes à Thoré-la-Rochette pour parler du comptoir des cocottes, initiative épicerie solidaire dont nous allons largement parler durant cette émission. Bonjour à tous les trois, je suis avec Christine, Juliette et David qui occupent trois fonctions prépondérantes au sein du comptoir des cocottes. On va représenter tout ça. Christine, je vais vous donner la parole puisque c'est vous qui avez initié donc ce comptoir des cocottes situé à Thoré-la-Rochette et à Mazanger. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission.
Bonjour à tous. Le comptoir des cocottes, on peut peut-être dire que ça existe depuis 6 ans maintenant. Voilà, alors la première étincelle, c'était en 2017, mais on a ouvert les portes de l'épicerie participative en 2018.
Le concept des épiceries solidaires existe, a infusé en France depuis, je sais pas, une dizaine, douzaine d'années, j'ai l'impression. Il y avait cette idée de venir l'importer sur le territoire vendéois.
Alors, c'est pas tout à fait. Alors, il y a plein d'appellations pour les épiceries. Alors, nous, on n'est pas tout à fait une épicerie solidaire.
Ma représentation, voilà, votre concept.
On est une épicerie associative. Ouais. Donc, on est loi 1901. On est sans logique de profit. Mmh. En soi, on peut dire que c'est un peu solidaire. On pratique des prix très abordables et justement un de nos objectifs, c'est de rendre accessible à tous une alimentation de qualité et issue de l'agriculture durable. Et on est aussi une épicerie participative, et ça à l'époque c'était assez pionnier. Participative, ça veut dire qu'en fait il y a un groupe de citoyens qui vient avec nous et qui donne, alors chez nous c'est 3 heures de leur temps par mois, c'est pas le bagne. Hein.
On va y revenir avec Juliette donc, qui est bénévole, qui nous décrit.
Et donc c'est en ça que c'est participatif. Et ouais, à l'époque c'était pas trop dans l'air du temps encore. Depuis, il y a eu plein d'initiatives. Bon, la plus connue c'est à Paris, la Louve à Paris. Voilà, des magasins en fait où travaillent ensemble des salariés, des bénévoles, des producteurs.
Comment s'est créé donc le comptoir des cocottes ici, au-delà du concept général donc de l'épicerie associative?
Au départ, on était deux, donc moi et ma collègue Catherine Andreau. Et on était un carrefour de nos vies toutes les deux. Moi, c'est pas du tout mon métier épicière, hein, je suis journaliste à la base, donc rien à voir en fait. Et Catherine, elle est contrôleuse de gestion, un peu plus à voir quand même pour les comptes, c'est assez utile. Et puis, on marchait dans la campagne, hein, on vit en pleine campagne, donc voilà, du côté de Montoire-sur-le-Loir. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet en local? Alors, on cherchait quelque chose qui représente nos valeurs, donc des valeurs, on est sensible à l'environnement, on est sensible au bien manger, on est sensible au social, aux citoyens, donc voilà. Et puis, un jour, elle m'envoie un extrait de film qui s'appelle Park Slope Food Coop, et c'est l'histoire du premier supermarché coopératif qui s'est fondé dans les années 70 à Brooklyn. Alors on regarde ça, et justement ce film-là, il peut se trouver hein, sur les réseaux, montre des gens, alors en ville hein, pour le coup, qui pour acheter dans ce magasin et pour faire fonctionner ce magasin, donnent 3 heures de leur temps chaque mois.
Devaient faire partie de l'équipe qui administrait, qui gérait le magasin, oui.
Exactement. Alors, mais ça peut pas forcément administrer, ça peut être passer le balai, mettre les légumes en rayon,
participer au fonctionnement général faire les achats, de la surface.
Voilà,
ouais.
Voilà, faire que ça tourne. Donc on s'est dit on va pas quand même fonder un supermarché hein, dans nos cambrousses, quoi. Ça nous plaisait pas trop. Mais on s'est dit pourquoi pas une épicerie. Et ensuite, en regardant un petit peu autour de nous, on s'est aperçu, et ça c'est toujours une réalité malheureusement, que il y avait beaucoup de villages en milieu rural qui avaient perdu leur dernier commerce, où il y avait carrément plus rien. Donc l'idée, c'était effectivement pas de s'installer dans un village où il y avait déjà une épicerie. On voulait pas couler quelqu'un, hein, dans nos valeurs, mais au contraire venir s'associer du coup au pouvoir public pour redonner un commerce généraliste dans un village. Et pendant 14 mois, on a été SDF en fait. Hein, on regardait, on voulait pas non plus aller à 2 heures de chez nous. L'idée c'était pas de faire des kilomètres en voiture. Il fallait qu'on ait des producteurs avec nous. Donc, tant qu'on cherchait un endroit, ben, on a commencé à démarcher, un peu à faire les marchés, etc., à voir qui est-ce qui voudrait bien, si on fondait un projet de ce type, qui nous suivrait dans l'aventure. Donc, au début, ils étaient 2, 3, 4, 5, 6. Bon, aujourd'hui, ils sont 95. Pour parfois des petits produits. Hein, parfois, c'est juste du miel. Parfois, c'est juste des biscuits, des farines, etc., etc. Bon. Puis finalement, pour se faire connaître, on participait à des événements locaux. La fête du champignon à la veille, la brocante, machin. Bon, voilà. Et puis, un jour, on est allé faire un débat au cinéma de Vendôme. Je me souviens, le débat, c'était manger bio et local, tous consommateurs. On avait appelé ça comme ça. Et dans la salle, il y avait le maire de Touré-la-Rochette. Et il est venu nous voir et il nous a dit « Écoutez, moi, votre projet, j'y crois. Il se trouve que mon épicerie traditionnelle de village, elle a fermé il y a un an. Je n'ai pas tellement envie de me relancer dans une aventure, on va dire, commerciale habituelle. Touré, c'est un village un peu alternatif, tout ça. Moi, je vous offre le local. »
Il y a une chance que ça fonctionne, on lance le projet
on
ici
essaye.
À Touré.
Ouais. On tente. Voilà, voilà l'histoire.
Et donc, le projet s'est monté en 2018.
2018, voilà. Mais longtemps, on a peaufiné le modèle, on va dire. On a vraiment réfléchi au modèle et ensemble avec les gens qui venaient nous rejoindre sur quel modèle économique, qu'est-ce qu'on propose aux bénévoles qui nous rejoignent, qu'est-ce qu'on propose aux producteurs qui nous rejoignent, comment on aménage ce local, combien de temps on est ouvert. Par exemple, là, on a décidé très vite, on s'est dit, c'est chouette d'ouvrir le dimanche matin. Mais le dimanche matin, on ne savait même pas si on aurait des salariés au départ, puisque il fallait quand même un peu de sous pour payer des salaires, même si on est tous au SMIC, faut quand même payer les gens. Et donc, dès qu'on a eu une équipe de bénévoles assez conséquente, ouais. On s'est dit, on ouvre du mardi au dimanche, parce qu'on est, on est aussi une épicerie qui propose des services, où les gens, justement, dans les villages, ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture. Pour aller acheter la base en fait de l'alimentation. Alors on n'a pas tout, hein, on est une petite épicerie, mais bon quand même déjà combien de produits, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que le local aussi, ça c'était une grande question parce que y en a qui disent le local en fait c'est le français tout simplement. Nous on a dit non, nous, le local c'est moins de 40 km. Alors pas pour le sel de mer évidemment. On n'a pas encore la mer à Touré-la-Rochette, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas encore la mer.
Elle va monter un jour ou l'autre.
C'est ça.
Voilà, peut-être, mais
ouais,
pas trop
c'est
tôt.
C'est pas forcément une bonne nouvelle.
C'est pas forcément une bonne nouvelle, je vous l'accorde. Et donc, évidemment, agréger des producteurs locaux avec, j'imagine, des valeurs partagées. Je me tourne vers David. Donc, vous êtes producteur, maraîcher, donc, et donc associé à la structure du comptoir des cocottes. Alors, déjà en maraîchage, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez chez vous?
Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis maraîcher depuis janvier 2022. Donc, je me suis installé, ça va bientôt faire 3 ans. Et du coup, dans les moments de mon installation, Catherine était à la recherche d'un maraîcher parce qu'il n'y avait plus de maraîcher bio sur l'épicerie. Et du coup, par hasard, on a fini par se rencontrer et se mettre d'accord pour travailler ensemble. Moi, dans le modèle d'installation, j'ai démarré en créant une AMAP avec des paniers de légumes qui sont à côté de mon exploitation. Donc moi, je suis de l'autre côté de Montoire sur le Loir. Et du coup, je fournis des paniers de légumes à des consommateurs chaque semaine ou sous le principe abonnement. Ouais. Et pour compléter ça, le comptoir des cocottes proposait de prendre des légumes et de travailler avec les légumes de saison. Donc c'était un partenariat possible et il fallait mettre en place le fonctionnement parce qu'il y a un quart d'heure de route à peu près pour venir. Donc voilà, il fallait trouver un fonctionnement pour pouvoir venir livrer. Et puis on a trouvé un fonctionnement qui correspond.
Vous livrez tous les jours, tous les deux jours, une fois par semaine, comment ça se passe?
Alors on s'arrange à plusieurs producteurs, ouais. C'est aussi la force d'être une épicerie avec un certain nombre de producteurs. On est plusieurs producteurs à être dans le même secteur, mmh. Donc on s'arrange, on livre deux fois par semaine, et du coup moi je viens une fois par semaine livrer l'épicerie.
En alternance avec,
un autre maraîcher qui vient livrer aussi une autre fois. Et le jeudi, on a également les champignons qui est pas très loin de chez nous et qui vient nous amener les champignons. Donc c'est un regroupement et ça permet d'optimiser les déplacements et de permettre d'avoir encore plus de produits sur l'épicerie des comptoirs des cocottes.
Quel est le modèle économique pour les producteurs et pour l'épicerie? Comment ça fonctionne? Comment le producteur est rémunéré? Quelle est la marge faite? On sait bien que vendre local, c'est mieux pour l'économie locale, évidemment. Mmh. Pour le producteur aussi, ça a des vertus. Comment est-ce qu'on peut décrire le modèle économique de la structure et notamment le rapport avec les producteurs, Christine?
Alors le modèle économique, justement, il est très particulier. En fait, on l'a pensé au départ en disant ce sont les producteurs qui savent le prix de leur travail. Mmh. Donc on a pour principe, je ne dis pas qu'on négocie pas de temps en temps, mais on a quand même pour principe de les laisser fixer leur prix.
Et de leur faire confiance sur ce que ça doit leur rapporter.
C'est à eux de voir leur propre modèle. Et là-dessus, nous, sur le local, on applique une marge commerciale faible, entre 25 et 30 % à peine. Hein, ça dépend des produits, ça dépend un peu de la saison, évidemment. Et c'est calculé, cette marge, en fait, elle est calculée uniquement pour arriver à zéro, enfin à l'équilibre. Hein, zéro, c'est un peu négatif, mais... pour payer les salaires et les charges uniquement. Voilà. Donc pas de bénéfices. Sur les produits, on va dire, parce qu'on est aussi une épicerie de village.
Ouais.
Donc on a des super produits de saison et tout ça, mais on a aussi une serpillière, du papier toilette, des allumettes, enfin des choses qui peuvent servir aux gens, puisque bon, l'idée c'est qu'ils prennent pas trop leur voiture pour aller au supermarché
de Vendôme qui est voilà. À 15 minutes d'ici. Ouais,
absolument. D'ici. Et là, sur ces produits-là, on marge normalement. Mm-hmm. Mais c'est au départ, on s'était dit, on va faire presque 50-50, c'est-à-dire 50% de produits de grande consommation, 50% de produits locaux. Et c'est les produits justement de grande consommation qui vont un peu soutenir notre modèle économique. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Les gens étaient beaucoup plus solidaires et sociaux que prévu.
Complètement. Surtout, ils ont complètement accroché au truc. Et du coup, aujourd'hui...
ils ont arrêté d'acheter du papier toilette pour acheter des salades et des tomates. Alors.
ils en achètent un peu moins. Ils en achètent un peu moins. Mais on peut dire que la répartition, c'est plutôt 80-20, en fait. 80% de produits locaux, 20% de produits de grande consommation, ce qui fait que économiquement, parfois c'est un peu rude. Mais c'est génial parce que ce qu'on a voulu faire passer comme valeur, ça veut dire que ça remplit sa mission, quoi.
Les valeurs, je me tourne vers la dernière personne qui n'a pas encore pris la parole autour de cette table, Juliette. Donc, vous êtes bénévole au sein de l'association, donc est-ce que vous
et
de l'épicerie, est-ce que vous pouvez décrire l'investissement qui vous est demandé au sein de la structure de l'association?
Donc, bonjour à tous. Donc oui, Juliette, bénévole, donc depuis un an à l'épicerie de Mazanger. Et donc, comme le disait Christine, 3 heures de notre temps par mois, ce qui est peu. Moi, me concernant, je travaille la semaine, j'ai eu la possibilité de choisir un créneau le dimanche matin. On commence l'ouverture. Comme un salarié lambda, on a la clé hein,
du magasin, de l'épicerie, la clé de la caisse,
voilà,
tout ça.
C'est ça. Ouais. Et voilà, l'ouverture du magasin, on ouvre les lumières, tout comme un salarié classique,
d'épicerie ou de supermarché.
Et donc on effectue de la vente, du réassort.
Les tâches de rayonnage, d'affichage, etc. Ouais.
On reçoit aussi le journal, donc on doit le mettre en avant. C'est vraiment comme, euh, comme un supermarché classique, sauf que là, on est vraiment sur une épicerie à taille humaine d'un village. Et on crée du lien social, ça c'est très important.
Et vous êtes combien de personnes l'équipe l'épicerie peut-elle tourner, parce que donc Juliette vous venez le dimanche matin.
Oui.
Combien de personnes est-il nécessaire de planifier pour une ouverture le dimanche matin ou les autres jours d'ailleurs?
Bah, pour être ouvert en fait du mardi au dimanche. Alors il y a une demi-journée le mercredi, 7, voilà, 5 jours sur 7, sachant qu'il y a deux demi-journées, la demi-journée du dimanche, ouais, et la demi-journée du mercredi.
Ok.
Pour démarrer, il faut une trentaine de bénévoles par site, donc 30 à Toré, 30 à Mazanger, et là en ce moment ils sont 80 à peu près les bénévoles. Alors il y en a qui sont pas forcément en magasin, qui sont un peu des gaules volants, hein, qui vont chercher des produits, qui organisent des tournées pour chercher du cidre, des farines, bon, tout dépend des lieux géographiques où on peut rassembler certains producteurs. Et d'autres, ben voilà, ils font leur vacation en magasin de 3 heures ou plus d'ailleurs, parce que c'est un minimum de 3 heures.
C'est un minimum, mais voilà, on peut en
voilà,
faire.
Voilà, c'est l'engagement. C'est vrai qu'on parle de bénévolat, mais c'est en fait c'est assez cadré hein, chez nous. Je veux dire, si on veut être bénévole aux cocottes, on s'engage vraiment parce que le modèle économique, en fait, à eux tous, ces bénévoles, ils représentent sur chaque site à peu près un équivalent temps plein. Donc,
c'est une force de travail non négligeable.
Eh ben exactement. Donc, c'est vrai qu'on pourrait, s'ils n'étaient pas là, on pourrait recruter. Mais qu'est-ce qui se passerait si on recrutait ? Ben, on demanderait, on négocierait les prix auprès des producteurs, on monterait les prix auprès des consommateurs pour tenir. Parce que, ben, comme dans toute petite entreprise, ce qui coûte, c'est la masse salariale, hein, le coût du travail. Donc, c'est grâce à eux, en fait, grâce à ces gens formidables. J'en profite pour les remercier parce que sans eux, en fait, les cocottes, ça n'existe pas. C'est grâce à ces gens que tout le monde y trouve son compte.
Et alors, Christine, vous parliez qu'il y avait 9 salariés. Ouais. Mais alors, que font les salariés si le magasin est tenu par les bénévoles ? Rassurez les auditeurs et les auditrices que l'argent est
non,
bien dépensé dans l'association.
Ils bronzent dans la réserve, non. Bah non, c'est quand même... Il y a quand même des tâches administratives hein, qui sont importantes. Les salariés sont aux côtés des bénévoles toute la semaine, sauf le dimanche, hein, comme quand Juliette elle fait sa vacation, ils sont en binôme, ils sont en autonomie le dimanche, parce que les salariés ne travaillent pas le dimanche. Mais sinon, ouais, il faut être deux, hein, il faut être deux en vente. Souvent, il y a moins de monde l'après-midi, il n'y a pas forcément de bénévoles l'après-midi, donc pour pouvoir couvrir des horaires d'ouverture qui vont de 8h45 à 19h30, avec une pause à midi quand même. Eh ben, il faut être là, il faut réceptionner les livraisons, il faut savoir faire fonctionner la caisse, même si les bénévoles sont très doués, il y en a plein qui s'y mettent aussi. Donc voilà, il y a même donc, des tâches de direction, hein. On est en co-direction, Catherine et moi. Catherine s'occupe de tout ce qui est finance, etc. Et moi, bah, je m'occupe d'encadrer quand même. C'est un hybride hein, entre une entreprise et une asso, donc ça fonctionne pas tout seul, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites en autonomie. Donc voilà.
Christine et Juliette, je crois que vous parliez toutes les deux de lien social qu'offrait la boutique, le comptoir. Est-ce qu'on peut en parler, notamment via d'autres activités qui sont menées par le comptoir ? Je voyais dans votre description des concerts, des rencontres diverses, etc. Donc ce n'est pas qu'un lieu de consommation alimentaire, c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange et de partage entre les bénévoles et les usagers, les consommateurs de l'épicerie. Juliette ?
Complètement. Mais en fait, en gros, quand tu rentres dans cette épicerie, tu as vraiment une petite émulsion de... Vraiment, enfin ouais, de personnes différentes.
Elle a les yeux qui brillent, Juliette, quand elle parle de ça.
Non, mais c'est... En fait, pour ma part, donc je me suis installée récemment dans le Vendômois. Et auparavant, je participais à la Louve et à Super Quinquin aussi à Lille. Mm-hmm. Donc pareil, même modèle. Et quand je me suis installée ici, donc voilà, je n'avais pas d'attache particulière, j'ai vu justement l'épicerie Les Cocottes et je me suis dit, mais génial, top, enfin, ça va me permettre de continuer mon,
ce que
voilà,
vous
mon engagement
dans les autres épiceries avant.
Voilà, comme auparavant. Et en plus de ça, je vais pouvoir créer du lien et connaître en fait les habitants du coin. Et donc voilà, jackpot, au top, je me suis présentée, on s'est présenté avec mon compagnon vers Christine et ça s'est fait comme ça. Donc oui, complètement la création du lien à 100%. Et ouais, c'est vraiment chouette.
Alors en fait, ouais, comme dit Juliette, il y a une création de lien, bien sûr, en interne, c'est-à-dire au niveau de l'équipe bénévole, avec les salariés. Et puis il y a aussi une mission de l'association qui est d'aider à notre modeste niveau à la transition écologique. Et donc on s'est donné pour objectif de faire une animation publique par mois. Mmh. On n'y arrive pas toujours, hein. Il y a des mois où on est un peu débordé, on n'y arrive pas, mais sinon en général on organise par exemple des zones de gratuité ou parfois pour lancer Mazanger on avait fait un marché de producteurs et les zones de gratuité c'est donner une deuxième vie aux objets, voire aux déchets, ça nous permet de faire des partenariats avec d'autres associations locales et surtout ça ouvre ce lien entre des gens qui à ce moment-là ne sont pas consommateurs, hein, ils viennent devant l'épicerie, ils viennent quand on fait des thèmes, je sais pas quoi, cadeau de Noël, linge de maison, livres, des choses comme ça, les gens viennent pour cet événement. À cette occasion, ils découvrent l'épicerie et puis petit à petit, ils voient que c'est qu'on transmet aussi des valeurs. Ils découvrent que dans le Loir-et-Cher, en plus, franchement, au niveau production locale, c'est super varié. Hein. Il n'y a pas que du fromage de chèvre et les bons légumes de David. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est une découverte à chaque fois et un échange autour de ça. Donc je pense que chacun vient aussi dans cette épicerie pour une raison très personnelle et puis au final vient adhérer à un mouvement, un projet global. Un projet en fait de société, on peut dire, enfin bon, ça c'est peut-être un peu ambitieux de dire ça, mais moins quelque chose qui porte des valeurs en local qui permet de regrouper pas mal de personnes, tous les âges, hein. Juliette, tu peux en témoigner, hein. Il y a tous les âges, il y a tous les profils sociaux. Il y a des actifs, il y a des retraités et
des enfants aussi qui viennent chercher le pain.
C'est ça, ouais, la fonction épicerie de village où justement, comme les gens ils prennent pas leur voiture, ils envoient les enfants acheter de faire le panier de la semaine. C'est assez sympa et moi je dis toujours. C'est un petit bout de ciel bleu, ça réconcilie un petit peu avec la nature humaine, de voir des gens qui font des choses gratuites, mais pour ce genre d'objectif, de voir des producteurs talentueux comme David qui ose, on pourra en parler, parce qu'il ose vraiment être pionnier sur plein de choses, c'est super, quoi. Voilà, ça donne un peu d'espoir dans ce monde de brut.
Et depuis un an, vous êtes devenue une multinationale puisque vous avez ouvert une boutique à Mazanger et une boulangerie à Thorey-la-Rochette. Est-ce que le modèle économique a pu permettre cette ouverture-là? Et question pour les producteurs, est-ce que ça a nécessité une augmentation de la production ou plutôt d'aller chercher d'autres producteurs, d'augmenter le nombre de partenaires? David, est-ce que l'ouverture à Mazanger vous a demandé plus de travail?
Non, là, on s'est posé la question juste avant l'ouverture de Mazanger, de se dire, les cocottes sont venues vers moi en me disant est-ce que c'était possible de fournir plus pour pouvoir fournir les deux épiceries. Donc moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait continuer et agrandir sur les deux épiceries. Donc ça c'était une positif, vu que le premier modèle fonctionnait, c'était bien de pouvoir justement avancer sur une deuxième épicerie et de voir que la continuité était possible et que le modèle était reproductible aussi dans d'autres lieux. Dans d'autres villages. Après, avec les difficultés et les différentes problématiques qui peuvent être rencontrées. Mais voilà. Et je trouve que la force, pour revenir un petit peu sur la politique de prix qu'on disait tout à l'heure, la force quand même aussi du comptoir des cocottes, c'est que le prix, donc nous, ça nous permet de vendre nos produit à un prix correct, sans en abuser, parce que voilà, le but c'est que tout le monde s'y retrouve,
de rémunérer votre travail.
Et de l'autre sens, la politique de marge qui est faite derrière permet aux consommateurs d'avoir des produits à un prix qui concurrence même la grande surface. Et je trouve que c'est important, parce qu'on entend souvent que les épiceries de village sont plus chères que la grande surface, donc on va plutôt à la grande surface, alors que non, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, on peut avoir des bons légumes et des bons produits en général avec des prix qui sont concurrentiels. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et pour avoir travaillé aussi avec d'autres épiceries, on voit vraiment la différence, parce qu'en termes de volume de produits chaque semaine, ça n'a rien à voir. Une épicerie qui va des fois avoir tendance à doubler le prix que nous, notre prix de base à nous, va écouler très peu de volume. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent même gagner leur vie. Alors que là, il y a du volume et la marge est peut-être moins élevée, mais par le volume, je pense que c'est une très bonne démarche et ça permet à tout le monde de s'y retrouver.
Christine. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un engagement. Hein. On parlait des bénévoles, ces gens formidables, c'est sûr, mais c'est un engagement aussi des salariés, de la direction jusqu'au vendeur. On n'a pas de politique salariale, quoi, hein, on est au SMIC, parce que c'est finalement un effort de tous pour un projet qui porte nos valeurs, voilà. Et donc on souhaite longue vie aux cocottes, hein, mais c'est pas sans non plus, sans poser de soucis, sans remettre des choses en question. L'ouverture de Mazanger, par exemple, c'est le village de Mazanger avait perdu depuis 3 ans tous ses commerces un à un. La boulangerie, la boucherie, je sais pas ce qu'ils avaient encore, ils avaient plein de petits commerces. Il y avait une épicerie, bien sûr. Donc tout ça avait fermé. Et donc le maire est venu nous voir, c'est tout à côté de Touré, en y disant est-ce qu'on ferait pas un essaimage du comptoir des cocottes à Mazanger. Moi, je suis d'accord. Je vous mets un local à disposition. Et quel local, hein. Ils ont rénové la poste, carrément l'ancienne poste, pour nous installer. Donc, on est quand même bien bichonnés. Mais pour nous, c'était un changement d'échelle. C'est vrai qu'on est passé de 3 à 9 salariés. Parce qu'après, en plus, la même année, donc il y a un an, hein, tout ça, la même année, donc à Touré, la municipalité a choisi de construire un bâtiment mitoyen de l'épicerie pour installer un boulanger. Or, appel d'offres passé, 0 réponse. Pas de boulanger. Comme souvent, hein, dans les campagnes, pas évident. Et puis se présente François, qui dit, je sais faire du pain. Je sais faire du pain avec des farines anciennes, locales, et bio, mais je veux pas être patron parce que c'est trop dur. Voilà. Donc le maire est venu nous voir et nous a dit les cocottes.
Est-ce que vous voudriez bien prendre en charge cette petite affaire ?
C'est ça, vous géreriez pas. C'est juste à côté de chez vous. Alors on a bien discuté, hein, parce qu'entre Mazanger et la boulangerie, voilà, c'est comme ça qu'on est passé de 3 à 9 salariés. Hein, et aujourd'hui, on essaye.
C'est une grosse aventure,
voilà, c'est ça. Ça marche bien. C'est-à-dire, les gens sont contents des produits qu'ils trouvent. On est dans notre modèle, on est dans nos valeurs, mais on a encore besoin un peu quand même de soutien, notamment les pouvoirs publics. On est soutenu sur des emplois par la région, quand même. On a un CAPASSO. Là, on est allé chercher aussi des sous avec un dispositif qui s'appelle À vos idées. Moi, ça fait partie de mon travail, par exemple, d'aller un petit peu réveiller les pouvoirs publics en disant on répond à un besoin, en fait, aussi sur le territoire. On vient soutenir les producteurs, on vient créer du lien, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, au moment où on change d'échelle, il faut aussi que vous soyez à nos côtés.
Et donc, voilà, il y a un accompagnement. Mais
il y a un accompagnement, c'est pas toujours
être
simple.
Plus marqué.
On n'est pas encore, à l'équilibre à Mazanger. Il faut aussi que les gens changent leurs habitudes quand ils sont partis.
Reviennent aussi au commerce de proximité.
Ça fait 3 ans qu'ils sont partis au supermarché. C'est pas évident. Il faut qu'ils fassent leurs calculs. Comme disait David, effectivement, si on met bout à bout les super prix des producteurs, les super prix des cocottes et le fait de prendre sa voiture pour aller au supermarché, le calcul est vite fait, mais il y a des gens qui n'ont pas encore intégré le fait que voilà qu'une épicerie et que du bio local c'est super avantageux sur tous les plans économiques, au niveau santé, au niveau goût, voilà, ça c'est juste super. Ça va venir.
La boulangerie, David, vas-y.
J'allais dire, il faut retrouver aussi l'habitude. C'est la limite des épiceries et les gens sont habitués à manger tout le temps. Mm-hmm. Alors que là, on est vraiment sur les choses de saison, les produits de saison. Et du coup, on ne peut pas manger tout le temps. Et si on va à Noël au comptoir des cocottes, on ne trouvera pas de tomates pour mettre à Noël. C'est l'exemple qu'on prend souvent. Mais,
c'est important.
Mais voilà, c'est vraiment, on reprend l'habitude des légumes de saison. Et c'est ce qui fait aussi la politique de prix. Parce que si on veut des tomates à Noël, de toute façon, on les paiera cher.
C'est sûr.
Et voilà, c'est important de se réhabituer aussi à manger en fonction des saisons.
C'est très important de le rappeler. La boulangerie fonctionne sur le même modèle avec des bénévoles, puisqu'on a bien compris que le boulanger faisait du pain. Est-ce qu'il y a un salarié à plein temps qui s'occupe de la boulangerie, ou c'est comme Juliette, il y a 3 heures ou plus ou moins pour être vendeur, enfin pour s'occuper de la boulangerie? Comment fonctionne la boulangerie?
Alors la boulangerie fonctionne avec le boulanger, qui est à 40 heures par mois. Donc c'est des boulangers deuxième génération, il a tout à fait raison, même si l'équation n'est pas évidente au départ, c'est-à-dire c'est pas que du travail de nuit. C'est un boulanger qui peut avoir ses week-ends. Il y a une vendeuse, donc on salarie, ça fait partie des 9 salariés. On a une vendeuse, une vendeuse qui est à mi-temps. Ça veut dire que en fait la boulangerie, sur le site boulangerie, elle fonctionne le matin. Et qu'ensuite, le pain fabriqué par François est vendu à l'épicerie l'après-midi. Mmh. Voilà, on a tiré parti du fait qu'on était tellement proches. Pour que le pain... Voilà, on a un petit chariot.
C'est
on
du
met
circuit
le pain,
court, alors, du coup.
Ah, c'est du carrément très, très court, très, très court. On met ça dans un petit chariot, hop, on descend l'escalier ou la petite rampe.
Et puis,
c'est en boutique. Et puis, quand il n'y a plus de pain, il n'y a plus de pain. Parce que François, il a que ses deux bras pour produire. Il n'y a pas de croissant non plus industriel. C'est vraiment du pain au levain, des pains spéciaux le week-end. Il y a des pizzas aussi qu'il fait lui-même. Et tout est fait maison. Ce qui fait que, il n'y a pas le gros pain au raisin plein de beurre et qui vient de très très loin et tout ça. Non, pas du tout. Ça a fait râler certaines personnes dans le village. Ah bah oui, on n'a pas de croissant. Mais il fait des super brioches maison par contre. Et je pense qu'on n'y perd pas. On n'y perd pas au change.
On va terminer cette conversation passionnante autour du comptoir des cocottes. L'idée était de privilégier, donc, avec la réimplantation d'épiceries dans les zones rurales, le local, et de ne pas prendre sa voiture. Est-ce que des gens prennent leur voiture pour venir du Vendômois, pour venir jusqu'à Torry? Est-ce que votre public vient de Vendôme ou pas spécialement?
C'est une bonne question. Il faudrait qu'on fasse un petit questionnaire.
Ouais. c'est une idée que je vous lance.
Les personnes passent en caisse. Bonne question.
Ouais.
Franchement,
okay.
Je peux pas répondre.
Très bien.
Ouais, on ne sait pas trop en fait. Alors au début,
habitués, vous savez qui sont des.
Alors
locaux,
on a
etc.,
des adhérents parce que on est une asso et puis c'est un moyen de fidéliser les gens et aussi quand on est. Alors c'est ouvert à tous, l'épicerie des cocottes. Mais bien sûr, si on n'est pas adhérent, on peut venir acheter au comptoir des cocottes. Mais quand on est adhérent de l'association, on a 3% sur tous ces achats toute l'année. Donc pour les rentrer dans notre base de données, on leur demande leur code postal. On voit que majoritairement, c'est quand même des gens du coin. Après, on a dans le coin aussi des Parisiens, puisque le TGV de Vendôme nous amène des Parisiens. Et j'en ai vu qui le dimanche matin venaient remplir leur coffre pour repartir sur Paris avec des bons produits pour la semaine, ce qui est absolument génial. Donc on peut dire qu'ils viennent quand même d'un petit peu plus loin. Après, ouais, on ne sait pas. C'est très hétérogène comme public, en fait.
Eh bien, donc, merci à Juliette, David et Christine pour cette présentation et cette conversation autour du comptoir des cocottes. On rappelle, donc, il y a un site internet qu'on peut rappeler.
Oui, tout à fait.
Et on va rappeler les horaires donc, des boutiques, évidemment.
lecomptoirdescocottes.com. Je sais jamais si c'est .com ou .fr, mais t'as trouvé, on tape le comptoir des cocottes torées et on tombe dessus.
On remettra le lien sur la page
voilà,
du podcast.
Voilà, tout à fait. Il y a une page Facebook aussi du comptoir des cocottes. Et puis sinon, bah, on nous trouve voilà, à Torée-la-Rochette et à Mazanger. Et à Torée avec du bon pain. Mais à Mazanger aussi, hein, parce qu'on a des navettes hein, qui font... qui circule entre Torée et Mazanger, et donc il y a un gros trafic de brioches et de baguettes. Voilà, tous les jours pratiquement.
Merci donc beaucoup Juliette, bénévole, David, maraîcher, donc producteur pour les cocottes, et Christine, fondatrice et directrice générale. Merci à vous trois. C'est la fin de La Chose Commune. Les programmes continuent sur Studio ZEF. Bonne journée à tous et à toutes.